VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, merci d'écouter VOA Afrique, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 21 juillet 2016, en direct de Washington DC, la capitale des États-Unis. Eric Manirakidzer et Anne Albertson avec vous à la une ce matin.
Présidentielle américaine, Mike Pence accepte l'investiture de candidat républicain à la vice-présidence.
Le Mali a décrété 3 jours de deuil et réinstauré l'état d'urgence.
Après 2 ans de lutte contre le groupe djihadiste État islamique, les États-Unis battent le rappel de leur coalition militaire internationale réunie ici à Washington.
Ne manquez pas les sports et l'économie, mais d'abord le journal.
Au Mali, le gouvernement a décrété 3 jours de deuil et réinstauré l'état d'urgence pour une durée de 10 jours à compter de jeudi. C'est après l'attaque contre un camp militaire à Nampala, dans le centre du pays, dans laquelle 17 soldats ont été tués.
Israël renoue les relations diplomatiques avec la Guinée. Conakry avait rompu avec l'état hébreu depuis la guerre des 6 jours en 1967. Les précisions avec Eddy Issango.
Dor Gold, directeur général du ministère israélien des Affaires étrangères, a rencontré hier à Paris Ibrahim Khalil Kaba, haut responsable guinéen. Quand 9 ans après la rupture, ils ont scellé la reprise des relations diplomatiques entre Tel Aviv et Conakry. De son côté, le premier ministre Benjamin Netanyahou dit prévoir, sans donner des détails, que dans les jours à venir, un autre pays s'ajoutera à la Guinée. Pendant sa récente tournée sur le continent, il avait souvent répété « Israël revient en Afrique ». De nombreux pays africains avaient pris leur distance suite à la guerre qui opposait l'État hébreu à ses voisins arabes et du fait des liens de Tel Aviv avec les régimes de l'apartheid en Afrique du Sud. Peu avant la visite historique de M. Netanyahou sur le continent, Israël avait annoncé une enveloppe de 13 millions de dollars pour renforcer les relations économiques et la coopération. Pour l'heure, l'Afrique ne représente que 2% du commerce extérieur israélien.
En Angola, le Parlement a adopté hier une loi d'amnistie pour les personnes condamnées à des peines maximales de 12 ans de prison pour des délits non violents. Un texte qui devrait s'appliquer aux 17 opposants assignés à résidence. Le point avec Nani Talani.
La loi proposée par le gouvernement accorde le pardon pour tous les crimes passibles d'emprisonnement jusqu'à 12 ans, a déclaré le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Rui Mangueiras. Cependant, sont exclus de cette amnistie les crimes violents, les délits sexuels, le trafic de stupéfiants, la traite des personnes et des organes humains. Quelques 8 000 personnes devraient bénéficier de cette loi. Selon Zenaida Machado de Human Rights Watch, les 17 opposants condamnés en mars à des peines de prison pour tentative de rébellion qui ont été libérés en juin et assignés à résidence devrait en principe en bénéficier. La militante des droits de l'homme veut que le gouvernement abandonne les charges contre eux ou qu'un tribunal les acquitte car ils n'ont commis aucun crime.
Nanit Talani, le chef du principal parti d'opposition en Gambie et 17 co-accusés ont été condamnés à 3 ans de prison ferme pour plusieurs chefs d'inculpation, dont celui de rassemblement illégal.
En République démocratique du Congo, les autorités nationales et les Nations Unies ont lancé hier à Kinshasa une campagne de vaccination massive contre l'épidémie de fièvre jaune. Tatiana Mosso.
L'opération a été lancée à Kizinko, commune de Kinshasa, où quelques 80 cas suspects ont été enregistrés et où 4 personnes sont mortes de la maladie. Vital Kabuiku, ministre de la Santé de la province de Kinshasa, a rappelé, au début de la cérémonie de vaccination symbolique de près de 400 personnes, que la fièvre jaune n'a pas de traitement spécifique, seule la vaccination permet de se protéger contre elle. Selon l'OMS, la campagne vise à vacciner plus de 4 millions de personnes en Angola et quelques 11 millions en RDC, pour un coût estimé à 34 millions de dollars. L'épidémie s'est déclarée en décembre 2015 en Angola, qui partage une longue frontière avec la RDC. En Angola, 355 personnes sont mortes et en RDC, il y a eu au moins 85 décès. La fièvre jaune est une maladie hémorragique vitale transmise par le même moustique vecteur de Zika ou de la dengue.
Restons en RDC où l'on parle des enlèvements dans l'est du pays qui se font sur fond de rançon. Les ravisseurs exigent jusqu'à 1 500 $ de troc aux otages. Floribert Kambale Safari, une des victimes, a payé 500 $ péniblement récoltés par sa famille à coups d'emprunt. Il devra désormais consacrer pendant 8 ans l'intégralité de son maigre revenu au remboursement de la rançon ayant permis de le libérer. Les rats se comptent par dizaines et se dénouent presque toujours après versement d'une rançon, l'intervention des forces de l'ordre étant extrêmement rare. Sachez aussi que le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Zeid Raad Al Hussein, tient une conférence de presse à l'issue d'une visite de 4 jours dans ce pays.
En Libye, le gouvernement d'Union nationale a accusé hier soir la France de violation de son territoire. Quelques heures avant, Paris avait annoncé dans la matinée la mort de 3 de ses militaires dans ce pays. Dans la foulée, le président français François Hollande a confirmé pour la première fois la présence de soldats français sur le sol libyen.
Le chef du gouvernement tunisien, Habib Essid, a officiellement demandé hier un vote de confiance du Parlement sur son cabinet. Sous pression depuis plusieurs semaines, le président Béji Caïd Essebsi a proposé la formation d'un cabinet d'union nationale face aux critiques contre le gouvernement accusé d'inefficacité. Depuis 2015, la Tunisie est frappée par une série d'attaques djihadistes sanglantes.
En Afrique du Sud, le prince Harry et le chanteur britannique Elton John participent à une discussion consacrée aux problèmes des jeunes vivant avec le VIH. C'est au 4e jour de la conférence internationale sur le sida.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ailleurs dans le monde, au Yémen, 4 policiers ont été tués dans un attentat à Aden, revendiqué par l'État islamique actif dans cette ville du sud du Yémen.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a instauré l'état d'urgence pour 3 mois dans son pays et intensifié la purge massive lancée après l'échec du coup d'état militaire du 15 juillet.
Le ministre américain de la Défense ici à Washington, Ashton Carter, a promis hier la transparence sur les victimes civiles des bombardements de la coalition. Celle-ci a été accusée en Syrie d'avoir causé des dizaines de morts ce mardi dans une frappe près de Mibenj, dans le nord du pays. En revanche, les États-Unis et leurs alliés de la coalition contre le groupe État islamique se sont engagés à terrasser la tumeur djihadiste en Syrie et en Irak et à combattre les métastases des attentats islamistes dans le monde. Le Royaume-Uni va doubler le nombre de ses soldats en Irak, soit 500 militaires qui vont contribuer à entraîner les troupes irakiennes et kurdes qui se battent contre l'État islamique.
La première ministre britannique Theresa May se rend demain à Paris pour des entretiens sur le processus de sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne avec le président François Hollande. Madame May a eu hier des discussions fructueuses avec la chancelière allemande Angela Merkel. Monsieur Hollande veut que le Brexit se fasse rapidement, mais Angela Merkel estime que la Grande-Bretagne a besoin de temps avant de notifier sa demande de sortie de l'Union européenne. Cette étape n'interviendra pas avant la fin de cette année, a répété la première ministre britannique. Le Royaume-Uni a néanmoins renoncé à la présidence semestrielle tournante du Conseil de l'UE qui devait lui revenir en 2017. Fin de ce journal, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Présidentielle américaine 2016, hier la convention républicaine à Cleveland était à son 3e jour. Le colistier de Donald Trump, le conservateur Mike Pence, a formellement accepté lors d'un discours l'investiture de candidat républicain à la vice-présidence pour l'élection de novembre. Cet homme relativement peu connu avait été choisi par Donald Trump la semaine dernière. Les délégués à la convention républicaine de Cleveland avaient approuvé ce choix mardi par acclamation conformément à la tradition. Au cours de cette 3e soirée, d'autres orateurs ont électrisé la salle pour allier, bien entendu, les électeurs derrière Donald Trump. Mais Ted Cruz, son ancien rival, a troublé la fête. Il a rendu furieux les partisans du candidat officiel de son parti, compte rendu d'Idrissa Seydoudia, notre envoyé spécial à Cleveland.
I accept your nomination to run and serve as vice president of the United States of America.
Le gouverneur de l'Indiana a commencé par parler de ses humbles origines et des vertus que lui ont inculquées ses parents, le travail, la foi et la famille. Il a souligné qu'il est d'abord chrétien et père de famille avant toute autre chose. Ses héros, pendant qu'il grandissait, étaient, a-t-il déclaré, l'ancien président démocrate John Kennedy et Martin Luther King Jr., le leader du mouvement des droits civiques. Mais il a bien montré qu'il restait profondément enraciné dans les valeurs conservatrices chères au héros des républicains, l'ancien président Ronald Reagan.
Indiana is a state that works because conservative principles work every time you put them into practice.
Selon le colistier de Donald Trump, les principes conservateurs marchent chaque fois qu'on les met en pratique. Il a dénoncé la gestion économique et budgétaire de Barack Obama, soulignant que l'élection de Hillary Clinton, la candidate démocrate, ne serait qu'un troisième mandat du président sortant. Mike Pence s'est ensuite évertué à vanter les qualités de Trump qui permettront de restituer, a-t-il dit, à l'Amérique sa grandeur, ici même aux États-Unis et à l'étranger. À la différence d'Obama et de Clinton, Donald Trump sera un président fort et résolu. L'Amérique a besoin d'être forte pour rendre le monde plus en sécurité, a-t-il déclaré en dénonçant une administration qui, selon lui, abandonne nos amis comme Israël et passe son temps à présenter des excuses au reste du monde. La faiblesse engendre le genre de problème sécuritaire que Donald Trump éliminera une fois à la présidence. Il a appuyé la construction d'un mur pour assurer la sécurité de l'Amérique, accusant l'administration Obama d'avoir une politique de frontières ouvertes et d'importation de terroristes. Mais son discours a été éclipsé par le refus public de Ted Cruz d'appuyer la candidature de Donald Trump. Il a été conspué par les délégués de New York et le mouvement s'est étendu à toute la salle pour avoir demandé aux électeurs républicains de voter leur conscience.
If you love our country and love your children as much as I know that you do, stand and speak and vote your conscience, vote for candidates up and down the ticket.
Clairement, pas une consigne de vote pour Trump, pas un soutien au candidat républicain dans sa propre convention d'investiture. Auparavant, plusieurs autres anciens rivaux de Donald Trump s'étaient adressés aux délégués, dont le sénateur Marco Rubio de Floride, le gouverneur Scott Walker du Wisconsin. Ted Cruz a été suivi par Eric Trump. Il a vanté les mérites de son père et repris ses thèmes favoris sur les accords commerciaux internationaux, les pertes d'emplois en Amérique, les méfaits de migrants illégaux contre des Américains innocents. Tout ça à cause, a-t-il dit, de l'incompétence, de l'ineptie et de la corruption et aussi de la faiblesse des leaders actuels de l'Amérique. L'ancien président de la Chambre des représentants, Newt Gingrich, est aussi intervenu pour souligner que Donald Trump a dit certaines vérités importantes au sujet de notre sécurité nationale. Nous sommes en guerre contre l'islam radical et pas de substitut que la victoire. Il a tenté d'interpréter pour l'auditoire et positivement la déclaration de Ted Cruz sur la nécessité de voter sa conscience en disant que seul Donald Trump remplit les critères que M. Cruz a énumérés. Idrissa Sedoudia, Cleveland, en Ohio.
Aujourd'hui soir, c'est la dernière journée de cette convention républicaine. Elle sera clôturée par un discours final de Donald Trump, formellement investi comme candidat à la Maison-Blanche. Nous retrouvons toujours à Cleveland notre envoyé spécial de VOA Afrique sur place, Nicolas Pineau. C'est le grand moment ce jeudi soir, Nico.
Oui, le candidat républicain qui va s'exprimer la nuit prochaine ici depuis la Quicken Loans Arena de Cleveland. On attend beaucoup de ce discours. Avant de l'entendre, il sera introduit par sa fille Ivanka. On sait qu'il est très proche d'elle et qu'elle est très présente, notamment au sein de sa cellule de communication. Alors évidemment, dans ce discours, il y aura certainement des attaques contre Hillary Clinton, comme depuis le début de cette campagne. Mais ici, beaucoup attendent de la substance, des idées. Donald Trump veut rendre à nouveau à l'Amérique sa grandeur. Comment veut-il s'y prendre? Combien cela va-t-il coûter? Il faudra donner des réponses la nuit prochaine devant les délégués de la convention. On suivra ça, évidemment, sur VOA Afrique.
Merci, Nicolas. À ce soir.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Nous passons au dossier du jour. D'abord, le Mali. Dans le centre du Mali, un calme précaire règne à Nampala. Mardi, des hommes lourdement armés ont attaqué le camp militaire. 17 soldats ont été tués et plus de 30 blessés. Les populations sont en colère parce que ce n'est pas la première attaque contre cette ville non loin de la frontière avec la Mauritanie. Idriss Fall a joint Ousmane Corigno, expert en gestion de conflits à Bamako.
Nampala a été toujours attaqué. Je crois que c'est la quatrième fois que Nampala est attaqué. Et c'est la plus grande attaque quand même, parce que 17 morts, 34 blessés avec 2 disparus. Le bilan est quand même trop lourd. Et il va falloir vraiment que l'armée malienne prenne des dispositions par rapport à cette zone qui devient assez dangereuse pour le pays.
Le président Ibeka a fait état de défaillance au niveau de l'armée. Qu'est-ce que ça peut être si c'est la quatrième attaque?
Oui, en tout cas, tout le monde regrette que cette attaque ait lieu parce que tout le monde connaît la vulnérabilité et la fragilité de ce point. Il y a une première attaque et une deuxième attaque. Et dans cette zone, pas plus tard qu'au mois de mars-avril, il y a eu 5 casques bleus qui ont été tués non loin de cette zone. C'est aussi dans cette zone qu'il y a eu le conflit entre les Peuls et les Bambara, où il y a eu une trentaine de morts. C'est suffisamment révélateur pour qu'on puisse prendre au sérieux la problématique de la sécurité dans cette zone et mettre les moyens qu'il faut. C'est vraiment une déception, aussi bien au niveau de l'État que des forces de sécurité que la population.
L'attaque a été revendiquée par 2 groupes. Ce groupe-là, est-ce qu'on peut parler de crédibilité pour ce deuxième groupe Peul?
Bon, je ne pense vraiment pas que ce soit crédible, leur revendication. Ça doit être de l'opportunisme. Ils veulent faire une usurpation. Ils ne doivent pas avoir suffisamment de moyens pour faire une telle attaque. Une dizaine de pick-up avec des armes lourdes, avec des motos en sardine qui a beaucoup plus de moyens et qui opère dans cette zone.
Ça fait longtemps, depuis la dispersion des mouvements djihadistes, depuis 2013. En fait, les djihadistes sont restés dans ce coin.
Oui, il faut reconnaître que cette zone, c'est une zone qui est très compliquée, non seulement par son relief. D'abord, sa situation, c'est juste à la frontière entre le Mali et la Mauritanie, à une quarantaine de kilomètres seulement de la frontière. Et puis ensuite, au nord, il y a un passage, la forêt du Ouagadou, qui est une cache pour les bandits. Et dans cette zone, il y avait eu des opérations, une opération. Après l'opération Sénou, il y a eu l'opération dans cette zone-là. Mais apparemment, ils n'ont vraiment pas atteint le mal à sa racine et les gens doivent se cacher quelque part et se regrouper pour attaquer.
Ousmane Corneau, expert en gestion de conflits à Bamako.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement a décidé hier au cours de sa séance hebdomadaire de conseil de ministres de suspendre les activités des syndicats d'étudiants sur l'ensemble du territoire national. Cette suspension intervient à la suite des violences qui ont émaillé le campus de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan lundi dernier. John Lyndon s'est entretenu avec Daniel Nissemon, président national de la jeunesse étudiantine de Côte d'Ivoire.
La suspension des syndicats intervient après les différents événements survenus sur le campus universitaire de Cocody suite à une vague de revendications qui a entraîné les casses de plusieurs véhicules, des destructions de biens publics et aussi nous avons des actes de vandalisme puisqu'il y a du matériel qui a été notamment dérobé pendant cette vague de revendications.
Les tensions entre la police, le gouvernement et les étudiants durent quand même depuis quelques mois. Est-ce qu'il y a une porte de sortie des crises, à votre avis?
Oui, il y a une porte de sortie des crises. Je pense que celle qui serait la mieux utilisée et la plus idoine est la porte de négociation et de dialogue. Un ensemble de structures d'organisations étudiantines avait déjà entrepris des démarches pacifiques en vue de trouver des solutions et là qu'est intervenue cette vague de violence orchestrée par un certain nombre de syndicats.
Maintenant que les syndicats d'étudiants sont suspendus, qui est-ce qui va discuter avec les autorités?
Nous avons déjà des organisations bien structurées qui sont à même de pouvoir poser les problèmes réels sur les tables de négociation avec un certain nombre de procédés plus ou moins recommandés. souvent qui peuvent amener un certain nombre d'accalmie, surtout de l'apaisement, parce qu'il n'est pas aussi efficace d'utiliser la violence, car par la violence, on arrive toujours encore à revenir en arrière, des pertes au niveau, nous-mêmes, au niveau du retard, au niveau du calendrier académique, et aussi au niveau des biens, du matériel, que nous, chaque fois, nous demandons au gouvernement d'accroître les capacités, et à l'issue de ces grèves où la violence est exercée, il serait inconcevable d'accepter que du matériel qui est déjà insuffisant soit détruit pour satisfaire un certain nombre de revendications, et on n'a pas besoin d'arriver jusqu'à là. Nous disons qu'il y a des organisations bien structurées que nous constituons qui peuvent mener le débat avec le gouvernement, avec les autorités et obtenir des résultats bien satisfaisants sans usage de violence.
Est-ce que jusqu'ici, il y a eu certains résultats quand même des revendications que vous avez faites auparavant ou pas?
Oui, nous avons des résultats. Vous savez que la pratique de la violence est plus offensive que celle de la négociation. Et quand il y a violence, quand il y a casse, quand il y a du vandalisme pratiqué, il y a plus de vagues de communication que quand la négociation est pratiquée. Sinon, nous avons mené plusieurs démarches et nous avons eu des résultats bien satisfaisants. La proposition du chef de l'État a été l'une des solutions proposées, mais qui devait être communiquée bien avant que ces événements-là se perpétuent sur l'espace.
Daniel Nissemon, président national de la jeunesse estudiantine de Côte d'Ivoire.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, 99 FM.
Au Nigeria, Médecins sans frontières appelle à une mobilisation humanitaire massive dans l'état de Borno, touché par les violences des salafistes armés. La zone est coupée du monde depuis presque 2 ans. Des milliers de femmes et d'enfants souffrent de malnutrition sévère et aiguë. Et le taux de mortalité est extrêmement élevé, a déclaré la directrice des opérations, Isabelle Defourny, jointe par Nathalie Barge.
Pour les enfants de moins de 5 ans, on est sur une malnutrition d'environ 50 à 60%, avec 15 à 20% de formes très sévères. On rencontre aussi des cas de malnutrition adulte. Et puis l'autre chose, c'est qu'on est face à une perte démographique en fait, de la population dans ces sites. Il n'y a quasiment aucun jeune homme, on ne voit pas de garçons au-delà de 10 ans. Et ça a été dû au conflit et aux violences politiques.
Dans quelles conditions vivent les populations dans cette zone?
Donc dans les villes de Bama, par exemple, il y a environ 10 à 15 000 personnes qui vivent dans le campagne d'un hôpital, donc dans un périmètre de 400 mètres sur 400 mètres, donc dans des espaces très restreints. Peu de nourriture arrive dans ces sites. L'accès aux soins est inexistant. Et les habitations sont aussi extrêmement précaires. La ville a été complètement détruite et donc les gens se sont fabriqués des petites cabanes avec des tôles. Il n'y a pas de latrine non plus, par exemple, et un accès à l'eau qui est insuffisant.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Quel est votre appel d'urgence?
Alors aujourd'hui, ce qu'il faut de toute urgence, c'est mobiliser l'aide internationale, surtout pour qu'il y ait des distributions de nourriture qui se mettent en place rapidement. Il y en a déjà des acteurs comme le CICR, le Croissant Rouge Nigérian ou un organisme d'urgence étatique qui ont commencé des distributions de nourriture, mais c'est totalement insuffisant. Donc ça, c'est la première priorité. Ensuite, il faudra garantir aussi l'accès aux soins de santé, faire des références vers la capitale de l'État. On estime à 15 à 20% d'enfants dans un état de dénutrition sévère et beaucoup sont atteints de pathologies banales comme la rougeole ou le paludisme ou des diarrhées, mais qui, avec un état de dénutrition, entraînent des complications très importantes et la mort dans certains cas.
Isabelle Defourny, directrice des opérations à Médecins sans frontières, en venant d'une mission à Bama dans le nord-est du Nigeria.
Cette semaine, dans Washington Forum, la convention républicaine depuis Cleveland. Donald Trump officiellement désigné comme le candidat du parti républicain pour la présidentielle de novembre prochain. Qui est le milliardaire new-yorkais? Quel est son programme? Quel impact aurait son élection sur les affaires du monde?
Retrouvez Nicolas Pineau, Idrissa Sedoudia et leurs intervenants à Cleveland et Tatiana Mosso et un invité spécial en plateau depuis Washington.
Laissez-nous vos commentaires et vos questions sur notre page Facebook. Nous en débattrons ce jeudi, 19h, temps universel, sur VOA Afrique.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Muniteco avec John Lyndon.
En Côte d'Ivoire, le chantier de la baie de Cocody coûtera 282 milliards de francs CFA. Le financement sera fourni par un consortium de banques arabes, notamment la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, le Fonds cohésien, le Fonds saoudien et le Fonds d'Abu Dhabi. En Sierra Leone, Orange a annoncé avoir bouclé avec son partenaire sénégalais Sonatel l'acquisition de 100% de l'opérateur mobile Airtel en Sierra Leone. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé, mais une enveloppe de 600 à 800 millions d'euros avait été évoquée pour les deux filiales d'Airtel au Burkina Faso et en Sierra Leone. Airtel est le premier opérateur mobile en Sierra Leone avec plus de 1,3 million de clients. En Éthiopie, un protocole d'accord a été signé entre Ethiopian Airlines et le groupe Aerosud. Le protocole d'accord vise à établir une joint venture entre les deux structures pour fabriquer et fournir diverses pièces d'avion à Boeing, Airbus et à d'autres entreprises aéronautiques.
C'était la Muniteco. Merci John. Nous passons immédiatement au sport avec Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Eric.
Football en Europe, on connaît déjà le nom du nouveau président de l'Olympique de Marseille, l'OM. C'est la première ligue en France.
Oui, le nom du successeur de Vincent Labrune à la tête de l'OM est tombé ce mercredi en plein match amical contre l'Ajax d'Amsterdam. Il s'agit d'un ancien dirigeant d'Adidas, l'italien Giovanni Cicolunghi, qui devra préparer la vente du club. Le nouvel homme fort de l'OM est inconnu du grand public, mais pas sa mission. Restaurer la solidité financière et le succès sportif de l'OM, a expliqué l'actionnaire Margarita Louis Dreyfus, afin que le futur propriétaire puisse construire sur des bases solides et rivaliser au niveau européen.
Football toujours, Bagassi, Manchester United prêt à payer cher pour Pogba, n'est-ce pas?
Oui, il faut le faire. Manchester United serait prêt à dépenser près de 120 millions d'euros pour acquérir le français Paul Pogba, ce qui ferait de l'actuel joueur de la Juventus Turin le joueur le plus cher de l'histoire. Manchester United devrait en effet déposer une offre de près de 119 millions d'euros, soit 100 millions de livres, après celle de 101 millions d'euros, soit 85 millions de livres, rejetée par le club italien, selon des informations de la presse britannique.
Et le sélectionneur de l'équipe du Brésil, Tite, a estimé ce mercredi qu'il serait inhumain de faire peser toute la responsabilité sur Neymar Bagassi.
Oui, il réagissait au lendemain des déclarations de l'entraîneur de l'équipe olympique qui disait assumer la Neymar dépendance. Rogério Micalé avait dit mardi « Je veux être dépendant de Neymar », ajoutant « On dit qu'il n'est pas bon d'être dépendant de Neymar et je ne suis pas d'accord. Je voudrais toujours avoir un Neymar dans mon équipe et quelqu'un d'autre n'est pas d'accord avec lui. »
JO 2016, Bagassi, États-Unis, première distinction olympique pour Phelps.
Oui, la star Michael Phelps a été élu capitaine de l'équipe des États-Unis de natation pour les Jeux olympiques 2016 de Rio. Annonce faite ce mardi par la Fédération américaine. Phelps, âgé de 31 ans, a été élu par ses coéquipiers de l'équipe américaine. Une première en 5 participations aux JO pour le sportif le plus titré de l'histoire olympique. Le nageur aux 18 médailles d'or est l'un des 6 capitaines. Phelps qui participera à Rio aux 100 et 200 mètres papillon et aux 200 mètres 4 nages n'a pas caché qu'il espérait pour ses derniers JO être le porte-drapeau de la délégation américaine lors de la cérémonie d'ouverture. Les capitaines des équipes olympiques américaines désignent eux-mêmes par vote leur porte-drapeau. Son nom est révélé quelques heures seulement avant la cérémonie d'ouverture.
Et c'est tout pour les sports. Merci Bagassi.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAfrique.com. À tout de suite.
Steve. va le monde aujourd'hui. Merci de votre oreille attentive. VOA Afrique en direct de Washington. Eh bien, c'est tout pour cette édition matinale. Gardez la conversation sur notre page Facebook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Eric Manirakiza à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.